Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
La vérité est-elle entre les mains de ceux qui détiennent le pouvoir ? Des opinions différentes peuvent-elles s'exprimer en dehors du credo officiel ? On admet facilement que ça n'est pas le cas dans les régimes autoritaires où l'opposition est muselée et la liberté de parole sérieusement limitée. Mais qu'en est-il dans les démocraties ? La vérité peut-elle s'exprimer sous des formes différentes, voire contradictoires ? On en parlera avec Gaël Chesnais, il enseigne l'histoire des médias à l'Institut catholique de Rennes et il vient de publier « Le contrôle de la vérité » aux VA Éditions. Une vidéo trompeuse qui affirme montrer le début d'un retrait des troupes françaises du Mali. Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24 a vérifié que les images ne correspondent pas à ce qu'elles prétendent montrer. Mais tout de suite, les dessous de l'Infox, la chronique, on retrouve Sophie Malibaud. Dernière de la saison du partenariat avec l'École publique de journalisme de Tours, l'EPJT, en compagnie aujourd'hui de Solène Gardret. On va au Burkina Faso, où dans un contexte sécuritaire tendu, la désinformation sévit sur les réseaux sociaux et où certaines infox viennent alimenter un sentiment anti-français.
Les dessous de l'infox, Sophie Malibaud.
Au début de la semaine, l'état-major burkinabé annonce le démantèlement de 3 bases terroristes dans le secteur est du Burkina Faso, la mort de 11 djihadistes et la saisie d'armements, véhicules et autres matériels. Dans la foulée sur WhatsApp et Twitter, de multiples versions commencent à circuler. Alors que raconte-t-elle, Solène ?
Un message en français relayé sur WhatsApp nous dit que l'armée burkinabé a attaqué, je cite, « des terroristes » et parmi les terroristes abattus, 3 seraient des Français clairement identifiés. Un tweetos va plus loin et évoque, lui, la DGSE, le renseignement français, mais un autre site en ligne, anglophone cette fois, avait déjà utilisé les mêmes photos début mai. Il parlait alors d'une attaque menée par l'armée nigériane contre des étrangers accusés de livrer des armes à Boko Haram. Dans tous les cas, ce sont les mêmes photos de corps criblé de balles qui accompagne le texte. L'infox a donc circulé en Afrique francophone et en Afrique anglophone.
Quel est le premier réflexe à avoir face à ce type de manipulation, utilisant les mêmes clichés pour raconter des histoires différentes ?
La première chose à faire, c'est de trouver l'origine des photos. Les moteurs de recherche, comme Google Images ou TinEye, par exemple, permettent de repérer toutes les publications qui ont déjà mis en ligne ces clichés. En utilisant ces outils, nous avons constaté qu'effectivement, ces hommes gisant à terre étaient bien identifiés, mais qu'il ne s'agissait pas de ressortissants français. En réalité, ce sont 2 journalistes espagnols et un Irlandais à la tête d'une ONG, Shengeta Wildlife, qui défend la faune sauvage. Et la presse internationale s'était intéressée à leur sort le 27 avril dernier, lorsqu'ils ont été retrouvés morts.
Alors a priori, cela s'est bien passé au Burkina Faso, mais les circonstances réelles n'ont rien à voir avec les commentaires accompagnant leurs photos.
Non, ces hommes étaient en repérage pour tourner un documentaire sur la protection des animaux. Ils suivaient une patrouille de militaires et de forestiers burkinabés en opération contre le braconnage. Les médias ont parlé de cet événement, il y a eu des témoignages de leurs proches et une déclaration du Premier ministre espagnol lorsque les corps ont été retrouvés le 27 avril dernier.
Alors avant de procéder à une vérification de l'authenticité de ces publications, quels indices montrent qu'il peut éventuellement s'agir d'une infox ?
Le message, il annonce la couleur et commence par cette formule du jamais vu en Afrique. Son auteur promet donc de dévoiler quelque chose d'extraordinaire qu'aucun grand média n'a publié. Et ça, c'est souvent la marque de fabrique des infox. Le but est avant tout d'attirer l'œil sur des liens qui renvoient ensuite vers des sites internet douteux où se mélangent le vrai et le faux. Ils fonctionnent comme des pièges à clics et génèrent ainsi des revenus publicitaires.
L'objectif est double, faire de l'argent, mais aussi propager à l'occasion de la propagande anti-française ou autre au profit de tierces parties. La difficulté étant de pouvoir remonter à la source, ce que ne permet pas un réseau comme WhatsApp. C'est inhérent à son fonctionnement, c'est son modèle économique. Merci Solène Gardret.
Les dessous de l'Infox sur RFI.
Et merci à Sophie Malibaud. Cette chronique et les liens qui permettent de vérifier l'information sont à retrouver sur notre site RFI, les dessous de l'Infox. Les pouvoirs en place ont-ils systématiquement la tentation de contrôler la vérité, d'imposer leur vision du monde à l'exclusion de tout autre ? Par quels moyens, dans le passé, l'autorité des États est-elle parvenue à limiter l'expression d'idées qui lui sont contraires? Et comment se sont mis en place les processus de contrôle? Les régimes autoritaires sont-ils les seuls concernés par ce phénomène? Ou bien les démocraties sont-elles également tentées d'imposer une vérité officielle?
On en parle.
On en parle avec Gaël Chesnais. Il enseigne l'histoire des médias à l'Institut catholique de Rennes. Et il vient de publier « Le contrôle de la vérité ». C'est aux éditions VA Éditions. Bonsoir Gaël Chesnais.
Bonsoir.
Alors, vous faites dans votre bouquin l'association entre pouvoir et contrôle de la vérité. Vous semblez dire qu'elle est inévitable, cette association. Quand un pouvoir s'installe, sa tendance serait donc d'imposer une vision du monde qui conforte son autorité?
Oui, tout à fait. Et la raison est très simple. Comme le dit Hannah Arendt dans La crise de la culture, ce qui est en jeu, c'est la survie, c'est la persévérance dans l'existence. La volonté de contrôler, de conformer le réel selon ses interprétations, selon ses idées, procède de cette logique qui est persévérer, aider un pouvoir à se maintenir dans son équilibre. En ce sens, le contrôle de la vérité, donc le contrôle du discours, parce que la vérité est un discours, est un moyen de produire des comportements, des raisonnements qui entrent en cohérence avec les vérités qui sont défendues par un pouvoir, les vérités en l'occurrence de sa mystique. Alors, peut-être faut-il préciser la notion de mystique tout de suite.
Qu'est-ce que c'est précisément la mystique, alors, d'un pouvoir?
Alors, la mystique, c'est un mot de Peggy, dans notre jeunesse, où il dit que derrière toute politique, il y a une mystique. La mystique étant une idée à laquelle nous adhérons passionnément. C'est en vertu de celle-ci, donc de cette mystique qui précède l'action politique, que se manifeste la volonté de contrôle. Alors, contrôler pour produire et pour que le pouvoir en place puisse se reproduire.
Mmh. Vous donnez quelques exemples historiques qui vont dans le sens de cette analyse. Napoléon, par exemple, qui entretenait, je crois, avec la presse, des relations très, très conflictuelles, n'est-ce pas?
Oui, tumultueuses. On s'aperçoit vraiment en lisant la correspondance de Napoléon à quel point la protection de sa mystique et le contrôle du discours étaient capital pour lui. C'est pourquoi il a très vite encadré la presse avec son ministère de la police. C'est pourquoi il a censuré un grand nombre de journaux qui étaient nés après la Révolution. Lui-même se faisant journaliste, historien, conteur de sa propre légende, afin, comme il disait, de soutenir l'opinion. Et il y accordait une très grande importance car il savait, avec raison, ce qu'il devait aux mots. Car aujourd'hui, on peut se demander, aurait-il été celui qu'il fut sans les textes qui l'ont porté, sans le roman du Pont d'Arcole, sans toute la mythologie autour du Petit Caporal, sans le récit des pyramides, sans toute la gloire qu'il a bâti et rendu au pouvoir premier légitime. Le récit des faits, oui. Si vous voulez, devait justifier sa mystique, l'histoire amenant l'histoire, et il ne voulait pas, en l'occurrence, que d'autres informations, de mauvaises nouvelles viennent entraver ces informations, ces vérités qu'il fallait soutenir à l'opinion.
Alors vous le citez dans votre bouquin, il dit à propos des journalistes, « Dites-leur que je ne les jugerai point sur le mal qu'ils auront dit, mais sur le peu de bien qu'ils n'auront pas dit. Quand ils représenteront la France vacillante sur le point d'être attaquée, j'en jugerai qu'ils ne sont pas français ni dignes d'écrire sous mon règne. » C'est un sacré avertissement quand même.
Plus qu'un avertissement, puisque ça a été mis à exécution.
Il y a un autre exemple de vérité qui fluctue au cours des siècles, c'est l'Église catholique. Vous prenez le célibat des prêtres comme exemple et l'évolution de la hiérarchie catholique sur ce sujet. Expliquez-nous.
Oui, en effet. Alors, le célibat des prêtres, bon, c'est un exemple. Mais pour dire que selon les circonstances, selon les époques, les rapports de force, nous pouvons assister à de grandes évolutions sur les vérités défendues par un pouvoir sur différents sujets. Et effectivement, dans le cas de l'Église, j'entends comme entité politique. Voilà, celle-ci a beaucoup évolué à longueur des siècles, et en l'occurrence sur le célibat des prêtres. On sait que du 1er au 11e siècle, les prêtres, par exemple, étaient en droit de se marier, de connaître la paternité, jusqu'à ce que la réforme grégorienne dictât que la prêtrise, était incompatible avec la conjugalité. Pourquoi? Pour quelle raison? Tout simplement pour affirmer la supériorité morale des clercs célibataires sur les laïcs mariés à un moment où ces derniers devenaient de plus en plus nombreux.
Mmh. Gaël Chesnais, quels sont les moyens utilisés par les pouvoirs en place pour imposer justement une vérité qui les sert et qui conforte leur domination?
Alors il y a deux modalités principales. La première, c'est la sanction, et la seconde, la persuasion. Alors la sanction, c'est le premier recours classique, dirons-nous, interdiction, censure, blâme, condamnation, exécution. Et on fait, selon la formule de Pierre Manant que j'aime beaucoup, la traque des paroles infâmes. Voilà, l'histoire, en l'occurrence, ne manque pas d'exemples en la matière sur toutes ces sanctions. La seconde modalité, la persuasion. Elle est très bien résumée dans un petit opuscule de Guizot qui s'appelle « De la peine de mort en matière politique », où il explique bien en quoi la force de nuisance n'est pas toujours suffisante et qu'on n'assimile pas une vérité uniquement parce qu'elle a été décrétée par une autorité extérieure. Il faut donc convaincre, persuader. Alors convaincre et persuader qui ? Les faiseurs de mots, les faiseurs d'idées, les historiens, les poètes, les journalistes, mais aussi, le cas échéant, la population dans son ensemble.
Mmh. Et puis les démocraties, dites-vous, ne sont pas exemptes de cette volonté de contrôler des vérités qui l'arrangent et qui perpétuent donc le pouvoir de leur classe dirigeante.
Oui, tout à fait. Alors on pourrait supposer à première vue que cela n'est le fait que des dictatures. À mon sens, il y a une différence, non pas de nature, mais de degré entre la dictature et la démocratie. La volonté de contrôle est inhérente à la nature humaine, puisque sur un plan philosophique, nous cherchons tous à conformer le réel, à le faire entrer en résonance avec nos mots, nos interprétations. Et cette volonté est bien sûr inhérente à l'activité politique. Vous connaissez sans doute le mot de Churchill, « je ne crois aux chiffres que j'ai moi-même falsifié ». La volonté de contrôle est toujours présente en dictature, en démocratie. Or, la différence en démocratie, c'est que celle-ci est censée se prémunir, elle est censée se protéger du contrôle de la vérité. Car en théorie, la démocratie permet la possibilité de l'erreur, la possibilité des fausses informations, des absurdités, de l'hérésie, la possibilité de toutes les vérités, alors que la dictature, c'est le régime d'une vérité, c'est le régime de la vérité.
Et ça ne serait pas le cas, alors les pays démocratiques n'acceptent pas la pluralité des opinions et donc des vérités différentes selon les croyances des individus, selon vous ?
Théoriquement. Après, la démocratie peut se vider elle-même de l'intérieur en adoptant, par exemple, des lois qui donnent libre cours à ce que j'appelle ce pas l'objet du désir. Donc, c'est un mot de Pierre-Louis que je lui emprunte, de céder à cette tentation de contrôler la vérité. De contrôler le discours général.
Alors justement, on parlait la semaine dernière dans cette émission de la loi de décembre 2018 sur les fausses informations. Dans votre bouquin, vous êtes clair, vous déplorez, vous, que la justice ait le droit, et je vous cite, de dire le vrai et le juste. C'est une responsabilité qu'on ne peut pas donner au juge, déterminer le vrai du faux ?
Non. Je pense à personne. Régine Debray dit que toute personne qui prétend détenir la vérité est une personne dangereuse. Vous faites allusion à la loi relative à la lutte contre la manipulation d'informations, des lois contre les fausses nouvelles. Oui. Je me permets de rappeler brièvement le contenu de cette loi, je l'ai sous les yeux. Pendant les 3 mois qui précèdent le premier jour du mois d'élection générale jusqu'à la date du tour de scrutin, lorsque des allégations, imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée, massive, le ministère public peut être saisi pour faire cesser cette diffusion. Le juge des référés se prononçant dans un délai de 48 heures à compter de la saisine. Pour résumer ce petit texte, l'État se met ainsi en moyen, mais en moyen la justice qui peut décider sous 2 jours si une information est juste ou ne l'est pas, si une enquête est valide ou ne l'est pas, si un journaliste est fiable ou ne l'est pas, si un journaliste est capable ou ne l'est pas, si un média est fiable ou ne l'est pas, et in fine si la vérité est ou n'est pas. À mon sens, c'est un jeu dangereux.
Plus globalement, Gaël Chesnais, est-ce qu'il ne faut pas tenter pourtant de réguler le flot de fausses informations et comment le faire, si c'est le cas ?
Je ne pense pas qu'il faille le réguler de la façon dont nous le faisons aujourd'hui. Alors, bien entendu, il y a des informations fausses ou que l'on peut juger fausses. Lorsqu'un haut responsable de l'État déclare un jour que le masque est inutile et un autre jour que le masque est indispensable, on peut soupçonner que l'une de ces deux assertions est inexacte. Mais ce n'est pas, me semble-t-il, le juste combat. Ce qui importe surtout, c'est non pas de lutter contre les fausses nouvelles comme nous le faisons, c'est-à-dire en érigeant par miroir une vérité qui serait la vérité, mais le plus important, c'est de lutter, me semble-t-il, pour nos libertés. Liberté de dire, de contredire, liberté de plaire, liberté de choquer, de blesser. Voilà, la démocratie, encore une fois, c'est la possibilité de l'erreur, c'est la possibilité de l'hérésie, alors que la dictature, c'est le régime de la vérité. la liberté, voilà le vrai combat.
Ce sera le mot de la fin. Gaël Chesnais, professeur d'histoire des médias à l'Institut catholique de Rennes. Je rappelle le titre de votre essai, « Le contrôle de la vérité » au VA édition. Merci et bonsoir.
Merci à vous.
On retrouve cette semaine Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir François, bonsoir aux auditeurs de RFI.
Alors le président Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane au Mali, c'était le 11 juin dernier. Mais sur les réseaux sociaux, des internautes maliens ont affirmé avoir un scoop 12 jours avant.
Mais oui François, dès le 30 mai, des pages Facebook maliennes diffusaient une vidéo avec pour légende « Début d'un retrait des troupes françaises du Mali, Macron vaut-il passer à l'acte ?» Et sur ces images, on voit de très nombreux militaires français qui semblent se diriger vers une destination commune. On entend même quelqu'un dire en bambara « c'est fini ». Et sur la base de ces images, eh bien, des internautes ont affirmé avoir un scoop du début du retrait des forces françaises, et ce, 12 jours avant l'annonce du président français.
Et on entend cette vidéo en fond sonore pendant que nous discutons. Expliquez-nous d'abord comment vous avez pu vérifier le lieu où cette vidéo a été filmée.
Le cadre de l'image a permis de voir le paysage aux alentours de la Seine et surtout de repérer des montagnes très reconnaissables. On n'a pas cherché très longtemps parce qu'on a reconnu précisément une montagne très célèbre au Mali qui s'appelle la Main de Fatma et qui fait partie des monts Ombori dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Or, à Ombori, eh bien, il y a bien un camp des forces armées du Mali, les FAMA, et ça a été ça, le point de départ de nos recherches.
Et alors, vous avez contacté des habitants de la zone pour en savoir plus?
Tout à fait. On s'est dit, s'il y a eu un déploiement militaire aussi important, eh bien, ça n'a pas pu passer inaperçu. On a donc contacté plusieurs habitants de Ombori pour leur montrer cette vidéo. Écoutez ce que l'un d'entre eux nous a dit.
J'ai reçu la vidéo la première fois. C'était le 29 mai sur WhatsApp. Il n'y avait pas de légende. Pendant ce mois-là, les habitants, ils ont vu beaucoup de militaires qui faisaient la navette entre le camp des forces armées maliennes qui se trouve à Ombori, et celui de Gossé, à quelques kilomètres.
Dans la région de Ombori, ceux que nous avons contactés nous ont tous parlé d'opérations militaires importantes au courant du mois de mai, et notamment de livraison de matériel militaire par avion.
Est-ce qu'on a le fin mot de l'histoire, finalement? Qu'est-ce que montre en réalité cette vidéo?
On a croisé les informations et on a retrouvé sur la page Facebook de l'armée française, mais aussi celle de l'armée malienne, des photos montrant une opération conjointe entre les soldats français et les soldats maliens dans le cadre d'une opération qui a été baptisée Equinox et qui s'est bien déroulée à Ombori. Alors cette opération, elle avait pour but de sécuriser la route nationale 16, notamment des attaques terroristes, et de permettre aux forces armées maliennes d'assurer la sécurisation en toute autonomie de la zone de Gourma. Ces informations, elles nous ont été confirmées à la fois par l'armée française, mais aussi par le porte-parole des armées du Mali. Donc en définitive, François, cette vidéo, elle a bien été prise dans le cadre de cette opération Equinox qui s'est terminée début juin, quelques jours avant l'annonce officielle d'Emmanuel Macron, mais en tout cas, elle ne montrait pas du tout en avant-première le retrait des troupes françaises. Alors oui, bien sûr, depuis la France a annoncé l'arrêt de l'opération Barkhane et le retrait progressif de ses troupes du Mali, mais ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est qu'il faut toujours faire attention à ceux qui prétendent diffuser un scoop pour aller plus vite que l'actualité.
Merci du conseil, Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24. Et merci de cette enquête dont tous les éléments sont sur votre site, bien sûr. On vous retrouve à la rentrée.
Vérification faite.
Et oui, parce que les dessous de l'Infox sont en vacances pendant l'été. Mais les fausses informations, bien sûr, on le sait, ne sont jamais en vacances. On aura donc du boulot. Rendez-vous le 3 septembre. Pour cette dernière édition de la saison des Dessous de l'Infox, l'attaché de production était Florence Ponce, à la documentation Julia Denat, à la réalisation Hélène Avril. Retrouvez cette émission, comme toutes les autres, sur notre site internet, sous l'onglet podcast.
François Bernard
vous dit bonsoir et à bientôt sur RFI qui reste avec vous en juillet et en août, 24 heures sur 24.
Marche du monde.